Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Benjamin Disraeli a dit « Quand je veux un livre, j'en écris un ». Voilà, me disais-je, une bonne question à poser à mes invités, notamment à des auteurs. Avez-vous écrit le livre que vous auriez voulu lire ? Hein, question intéressante que je vais mettre de côté. Il n'y a pas de doute, c'est Clotilde Saye qui vous parle. Vous êtes bien sur Canal M et c'est l'émission « À livre découvert » qui commence.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, à l'émission Fidèlement, nous allons accueillir Gaston Loubier, dont ce n'est pas la première chronique avec nous, qui va venir nous parler d'un livre de Claude Jasmin. Je reçois, et j'en suis très 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 heureuse, Katia Gagnon, dont nous avons enregistré trois livres ici. Yes, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah mon Dieu, c'est vraiment quelqu'un que je lis en plus très régulièrement, vous le savez, lorsque j'anime aussi la revue de presse, ici même sur les ondes. » Alors je me suis dit « Katia Gagnon, c'était vraiment un nom dans ma guest list. » Eh bien, elle est là. Bonjour, Katia. Merci
Bonjour.
D'être venue. Il y aura non pas un classique aujourd'hui, mais un gros plan sur une nouveauté, parce qu'un nouveau Marie-Claire Blais, ça se fête. C'est au Jardin des Acacias. Il est sorti il y a déjà quelques mois, mais ça y est, il est disponible depuis seulement quelques semaines au SQLA. Le bénévole du jour, c'est Pascal Bernard. Bonjour, Pascal, qui est déjà avec nous. C'est une première.
Bonjour, Clotilde.
Il est mort
merci.
De trouille et c'est très, très bien. Mm-hmm. Je vais aussi vous présenter un extrait de « Et au pire, on se marie » de Sophie Bienvenue, l'auteur qui sera avec nous la semaine prochaine. Des nouvelles et des livres, les événements d'il y a quelques semaines à Paris m'ont donné envie d'aller voir ce que nous avions de Michel Houellebecq dans notre catalogue. Eh bien, nous en avons beaucoup, évidemment pas Soumission, qui vient juste de sortir sur papier. Et puis, quoi d'autre ? Eh bien, nous finirons par quelques nouveautés en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour mon dévoreur de bouquins, Gaston Loubier.
Bonjour Madame Odilde.
Non, Clotilde.
Clotilde, mille excuses.
Ah oh, mais non, mais c'est pas grave Gustave. Pardon Gaston.
Il est beaucoup trop tard pour vous souhaiter une bonne année, puis beaucoup trop de bonheur pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin.
Ah oh, j'aime mieux la Saint-Valentin. Ah oui, hein, mais moi j'aime mieux la Saint-Valentin.
Voilà.
Oh oui, souhaitez-moi l'amour avec un grand A.
Voilà.
Allez.
Jusqu'à aujourd'hui.
Gaston, oui. Aujourd'hui c'est un livre exutoire en quelque sorte, hein, si je peux me permettre de donner ce mot-là, dont vous allez nous parler. Oui. Un livre de Claude Jasmin. Présentez-nous ce livre.
Voilà, c'est un livre, c'est un récit. Un court récit, je dirais, puisqu'il fait que 185 pages, 5 heures d'écoute.
Okay.
Mais c'est un formidable récit d'amour.
Mm-hmm.
Comme il est dit en dos du livre, c'est qu'il se libère d'un secret gardé.
Mm-hmm. On va peut-être donner le titre, excusez-moi, Gaston, de vous interrompre. C'est Anita, une fille numérotée.
Voilà. Alors, tout est dans le titre.
Oui.
Tout est dans le titre, le livre au complet. Anita, parce qu'elle est présente, sans qu'elle soit toujours là dans le livre de page à page, mm-hmm. son esprit est là du début jusqu'à la page 185. Mm-hmm. Donc, c'est Anita. La fille, c'est celle qui séduit Claude
mm-hmm.
par sa beauté, une blonde aux yeux bleus,
mm-hmm.
qui semble très jolie. Je suis certain que pour lui, elle était encore beaucoup plus jolie.
Mm-hmm.
Et il s'éprend de cette jeune fille qui est une Polonaise de culture et en plus, elle est juive.
Oui.
Et elle est sortie du camp d'Auschwitz,
mm-hmm.
numérotée. sur le poignet gauche.
Comme tous les juifs que l'on numérotait, voilà. on leur tatouait leur
voilà. Donc Anita, la fille, c'est son bonheur. Le numéro, c'est sa catastrophe. C'est son drame. Mm-hmm. Alors, du début à la fin, je pense que le titre est tout à fait là. Et il le dit, en d'autres couvertures, qu'il voulait se libérer de ce secret-là.
Quel secret? Oui, parce que c'est ça, parce que quel secret exactement, sans qu'on déflore, puisque de toute façon, non. C'est l'histoire du livre, mais oui. Le secret concerne le père exactement, hein, c'est ça?
Non, la fille.
La fille aussi?
Ah. Oui, surtout la fille. Et
pourquoi? Parce qu'elle voulait cacher ce numéro-là? Comme une honte?
C'est le numéro qui est le drame. Puis je ne le dis pas, là, mm-hmm. mais c'est ce fameux numéro-là. C'est pour ça que je dis le titre, il dit tout.
Oui.
Hein?
Oui.
Et ce drame-là, lui, qui l'a vécu, je le crois. Hein? Il dit la vérité. C'est pas un roman, c'est un récit d'un moment de sa vie qui l'a jeté par terre et qui l'a foulé le sentiment, refoulé jusqu'au fond lui-même. Et il a mis plusieurs couches de silence par-dessus.
Oui, parce que à cette époque-là, dans la société québécoise, du moins de ce temps-là, du moins dans cette famille-là, entre autres, on n'aime pas trop les Juifs. Hein?
Non, voilà, c'était dans les années 50, c'est une des raisons, mais lui ne voyait pas ça. Il ne voyait que le lien avec cette jeune fille-là.
Il est amoureux, il est amoureux,
et puis c'est pas, il n'y a pas une ligne de sexe dans ce livre-là. L'amour pour lui, c'est l'extrême bonheur de la présence de l'autre être avec lui. Et il est totalement heureux avec lui. Et comme de fait, il souffre un peu de tout son entourage familial, plus particulièrement, qui lui renote que c'est une juive et que ça ne va pas avec les catholiques trop. Ouais. Mais lui, il ne voit pas ça. Il fréquente cette jeune fille-là parce qu'il la rencontre à son école de poterie où il apprend à faire de la céramique. Okay. Puis quand il commence son année scolaire, elle est là dans ce groupe-là et il la remarque. Il veut mieux la connaître et là, il se met à la sortir. Et il nous amène avec lui. Il nous amène au parc La Fontaine parce que c'est un gars d'ici. Hein? Oui. On le reconnaît, on le suit partout, au parc La Fontaine, au jardin botanique, sur la montagne, à l'île Bizarre. Il traverse même de l'autre côté pour nous amener à la pointe Calumet,
oui.
où là, il nous fait une petite confidence, une petite rencontre, qui nous dit qu'il a dansé avec Denise Filiatro quand elle avait à peine 16 ans. Mais tout au long, il nous fait des rencontres, il nous présente des tas de gens, des poètes, Claude Gauvreau, Albert Dumouchel, Pellan, le jeune poète...
Jacques Normand, qu'elle aime dans, Le Faisant Doré, qui était un des lieux...
Le Faisant Doré avec Jacques Normand. Alors, on revit toute cette époque-là, parce que lui, il aime sortir avec Anita. Hein? Il aime sa présence.
Vous ne trouvez pas aussi, parce qu'il en parle aussi dans ce livre-là, en quelque part, il a honte de ne pas s'être rendu compte quand il était jeune de tout ce qui se disait autour de lui au sujet de cette jeune juive-là. Il a honte de ne pas l'avoir aidée, de ne pas l'avoir soutenue aussi là-dedans.
Aujourd'hui,
bien sûr, adulte, oui.
On dit que le copyright date de 2013. Oui. Hey, moi, là, je me souviens de ça, donc c'est pas loin, ça.
Non, c'est pas loin.
Donc, c'est pas loin, je veux dire, c'est... Alors, il a décidé vraiment d'avouer puis de reconnaître que probablement il aurait fait autre chose, il aurait agi autrement. Puis quand les gens qui liront ce livre-là, quand on va prendre conscience qu'il s'est trompé indirectement... C'est ça qui nous fait mal aussi.
Ah, c'est ça, oui.
C'est un excellent livre. Moi, je dois dire, c'est la deuxième fois que je l'ai lu pour pouvoir le présenter, puis je vous en remercie.
Mais je vous en prie. J'aurais un très, très court extrait, si vous me le permettez.
Oui,
pense qu'il... Par contre, il me manque le début. Il me semble qu'ils sont à l'Oratoire Saint-Joseph. Est-ce possible?
Oui, c'est un autre endroit qui l'amène visiter.
Voilà, c'est ça. Et là, il porte, alors qu'il est jeune, Anita est sur sur ses genoux. Et puis, à un moment donné, donc, il présente cette jolie blonde à son père, parce que c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et le père qui dit, ah, c'est vous, ça, Anita.
Oui.
Très froid, papa parle déjà de s'en aller. Anita lui dit tout sourire, monsieur, je n'étais jamais venue ici, c'est un lieu très impressionnant. Mais papa est déjà debout, ne la regarde même pas.
Voilà.
Et il leur dit, nous devons rentrer les enfants. Bon, toi, n'oublie pas qu'on va fêter l'anniversaire de ton oncle Léo ce soir, tâche d'être là. Et là, il dit, Claude Jasmin, en tout cas son personnage, je le déteste. Il refuse ostensiblement de s'intéresser le moindrement à ma compagne. Elle l'a bien senti et à ma grande surprise, s'est enlevée, Anita ose. En fait, qu'est-ce que vous nous reprochez au juste à nous les Juifs? Pourquoi nous détestez-vous?
Oui, oui.
Je vous propose évidemment d'aller vous procurer ce livre au SQLA pour en connaître la suite.
Ah,
Anita, une fille numérotée de Claude Jasmin.
Oui,
Gaston, vous vouliez ajouter quelque
chose? Oui, je prendrais juste une de ces lignes qui nous dit qu'à un moment donné, quand il s'en va dans le Nord, il apporte avec lui deux volumes, dont l'un qui l'a envoûté. Celui-là, ce livre-là, nous envoûte.
Ah, oui,
et je dois dire que moi, qui est un homme... À plusieurs reprises, les larmes sont venues aux yeux, par bonheur.
Oh.
Et le voir, je m'excuserai auprès de lui, je lui dirai, Monsieur Jasmin, je m'excuse, pardonnez-moi de m'être servi de votre malheur d'autrefois pour faire mon bonheur d'aujourd'hui.
Gaston, je vais vous faire, je l'espère, ce qui sera une promesse, mais ça ne dépend pas que de moi. Je veux avoir Monsieur Jasmin à cette émission-là.
Ouais.
S'il dit oui, je vous invite à la même émission. Et si vous le pouvez, pourquoi ne pas venir pour une fois? Peut-être, ça pourrait être bien. Pensez-vous que ce serait faisable?
Je ferai tous les efforts.
Mais sinon, c'est pas grave. Regardez, déjà, votre présence au téléphone sera... Parce que je sens que pour vous, ce serait bien important. Hein?
Ah oui, beaucoup.
C'était Gaston Loubier. Merci tellement, Gaston, d'avoir été là une nouvelle fois pour nous présenter ce livre de Claude Jasmin, Anita, une fille numérotée. On se retrouve très bientôt, et je l'espère, avec Monsieur Jasmin.
Mais vous êtes bien aimable.
Je vous
Merci
en prie.
Beaucoup.
Allez,
au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Katia Gagnon, c'est notre invitée spéciale. Katia Gagnon, journaliste, vous avez même été éditorialiste aussi à la presse à une époque. Vous êtes spécialisée, je dirais, dans tout ce qui est quoi, éléments sociaux, éléments. Vous intéressez un peu à tout, mais quand même plus précisément tout ça, aux préoccupations de notre temps, finalement. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été touchée, je pense, par ce qu'on vient d'entendre.
Oui,
avec
oui, oui, c'était très touchant. C'était vraiment un beau témoignage. J'aimerais qu'on, bien que quelqu'un parle de mes livres de cette façon-là, c'est vraiment...
Ah, mais c'est possible, parce que c'est pas parce que vous êtes là et que vous en parlez qu'un jour, j'aurai pas quelqu'un qui va me dire « Je voudrais qu'on parle, entre autres, de Histoire d'Ogre ». Histoire d'Ogre, ça vient de sortir, évidemment, sur papier, c'est sorti il y a maintenant quelques mois, mais c'est maintenant disponible au SQLA. Et quand j'ai vu que c'était disponible, aussi, ça m'a donné l'idée. J'ai dit « Ah, je vais essayer d'avoir Madame Gagnon, vous avez accepté tout de suite ». Parlez-nous de cette histoire, Histoire d'Ogre, qui arrive après la réparation, dont on parlera aussi. On n'est jamais dans des sujets très faciles.
Non.
Histoire d'Ogre,
non.
Quoique, c'est un peu plus léger peut-être. Allez-y.
Vous l'avez dit, moi je me spécialise en affaires sociales, en journalisme. Oui. Donc, dans ce secteur d'activité-là, on est en contact avec des sujets qui ne sont pas nécessairement faciles, qui sont des histoires de vie assez difficiles. Alors, dans le premier roman, La réparation, on parlait d'intimidation et aussi... d'enfance inadaptée. Et dans ce second roman-là, j'ai voulu parler d'une histoire que je suis depuis très longtemps, qui est inspirée de celle de Mario Bastien. Mario Bastien, qui est cet homme qui est en prison présentement pour le meurtre du jeune Alexandre Livernoche. Donc, il a tué ce jeune-là qui était âgé de 13 ans. Et moi, j'ai voulu raconter une histoire qui est inspirée de la sienne parce que je la trouvais révélatrice et intéressante. Je voulais comprendre comment un jeune comme ça, qui était Mario Bastien, devient un meurtrier. Donc, comment on passe... Il y a eu une enfance extrêmement difficile. C'est un enfant qui est issu d'une relation incestueuse entre sa mère et son grand-père. Donc, dès le départ, sa vie est extrêmement...
Difficile, bien sûr, ardu, oui.
Difficile. et donc, ce qui m'a intéressé dans ce livre-là, c'est vraiment de voir de sa naissance à ce meurtre-là, comment un tel personnage se développe dans son monde intérieur. Donc, c'est ce que j'ai voulu raconter. Et je me sers donc de cette journaliste que j'ai créée dans le premier livre,
oui.
et qui est Marie Dumais.
Oui.
Donc, Marie Dumais qui, dans le premier livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne dévoilerai pas tout, mais dont on découvre qu'elle a eu, disons, une enfance un peu particulière, elle mm-hmm. aussi. Et dans ce deuxième livre, ben, j'ai voulu continuer à la faire vivre parce que, mon Dieu, c'était une héroïne que j'aimais beaucoup, à laquelle je m'étais attachée. Et j'ai voulu donc la faire vivre un premier amour.
Ah oui, OK. Oui, parce que c'est ça, dans la réparation, le personnage de Marie Dumais est quand même quelqu'un d'assez sombre, hein, justement. Et là, elle est un peu plus lumineuse, hein, je pense. Elle est un petit peu plus, sans être complètement... On n'est pas dans l'humour, on s'entend que ce n'est pas le sujet, là, mais elle est un peu plus... En tout cas, c'était ce que je lisais et ce que j'ai lu de toute façon. Parce que moi, j'ai lu La Réparation à l'époque et je n'ai pas encore lu Histoire d'ogre.
D'accord.
Mais par contre, je me suis informée beaucoup, comme je le fais toujours. Et c'est ce que j'ai lu à un moment donné dans les journaux que Marie Dumais... Il y a quelque chose qui m'a fait rire ici. Les deux questions qu'on m'a posées le plus à la publication de La Réparation, à un moment donné, avez-vous déclaré à je ne sais plus qui, dans un journal, c'était « C'est-tu vous la journaliste ?» Et « Vas-tu revenir dans oui. un autre livre ?» Et c'est ça. Et ça vous fait bien rire quand on vous pose cette question-là.
Oui, oui. C'est sûr que quand on est journaliste et qu'on met un personnage, on met en scène un personnage qui est journaliste, le premier réflexe des gens, c'est de penser qu'on raconte notre propre histoire.
Oui.
Donc, moi, avec ce personnage-là, je ne racontais pas ma propre histoire au plan personnel. Moi, je ressemble pas du tout à cette fille-là au plan personnel. J'ai absolument rien à voir. J'ai eu une enfance très heureuse de parents aimants et il s'est jamais rien passé d'extraordinaire dans mon enfance au plan dramatique. Mais par contre, c'est sûr qu'au plan professionnel, j'ai pas pu faire autrement que de m'inspirer de moi et de mon travail et de la façon dont je travaille pour créer ce personnage-là. Et ça, c'est une des choses qui a beaucoup intéressé les gens. D'ailleurs, qui sont très curieux de voir comment ça se pratique, notre métier.
Mm-hmm.
Donc, comment on fait pour écrire une histoire, ramasser des informations, convaincre les gens de nous parler?
Oui, parce que la frontière entre l'auteur et la journaliste est mince, finalement.
Oui.
Elle limite.
C'est clair que dans ces deux livres-là, elle est très mince parce que c'est vraiment un livre qui est près de moi et près des sujets que j'ai vus de très près via mon métier
oui,
de journaliste.
C'est ça.
Donc,
bon, mais le titre, Histoire d'ogre.
Mm-hmm. Oui, Histoire d'ogre.
Éclairez-nous ce titre-là.
Parce que le personnage principal, donc, qui s'appelle Stéphane Bellevue, qui est inspiré donc de Mario Bastien, ce personnage-là est décrit par un criminologue comme un ogre. Parce que c'est quelqu'un qui est très grand, très fort, et le criminologue dit pourquoi cette personne-là a autant frappé l'imaginaire populaire. C'est parce qu'il y a une symbolique de l'ogre dans ce personnage-là. Hein? Les gens ont vraiment peur de lui parce que ça leur rappelle les premiers récits mm-hmm. d'ogres qu'on leur racontait quand ils mm-hmm. étaient petits. Mais il n'y en a pas juste un ogre dans ce livre-là. Il y en a plus qu'un parce qu'il y a une autre histoire aussi qu'on raconte dans ce livre-là qui est celle d'une jeune escorte qui s'appelle Jade. Et elle aussi est en contact avec un monde interlope, donc qui est extrêmement difficile.
Oh là là.
Pour les jeunes et jeunes filles en particulier.
Mm-hmm. On est justement, alors bon, elle est entourée de prostituées, de
vendeurs de drogue.
De vendeurs de drogue.
Exactement, c'est ça.
On est beaucoup sur la rue Sainte-Catherine.
Oui, oui,
hein?
oui.
On est beaucoup dans ces quartiers-là.
Là aussi, c'est une inspiration directe d'un lieu que j'ai vu personnellement dans le cadre d'une série sur la prostitution où c'est un travailleur de rue qui m'avait fait entrer dans cet hôtel-là. Qui était un tout petit hôtel qui est maintenant fermé, mais où c'était vraiment un hôtel de passe où les prostituées œuvraient de façon régulière. Et toute cette dynamique-là d'hôtel avec les prostituées, que j'en avais rencontré plusieurs, j'avais passé toute une soirée là, avec ce travailleur de rue-là, j'avais pu jaser avec elle, je leur avais dit que j'étais journaliste, c'était complètement ouvert. Et c'est ça, tout ce monde-là, moi, m'avait fascinée. Je m'étais dit, mon Dieu, je reste quelques jours ici, puis j'ai un roman sur cet endroit-là. Donc, quand j'ai commencé à écrire ça, j'ai voulu parler de cet endroit-là.
Est-ce que vous avez l'impression, vous nous disiez un petit peu plus tôt, que vous vous étiez intéressée surtout à la façon dont ce jeune homme-là, bon, qui était parti d'une vie difficile, vous nous l'avez dit, comment est-ce qu'on devient meurtrier? Avez-vous l'impression que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse précise à cette question-là?
Ça y répond dans la mesure du possible, parce qu'il y a toujours une part de libre-arbitre hein, dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens de la protection de la jeunesse à qui j'ai parlé pour ce livre-là qui m'ont dit « Écoutez, moi, j'en ai rencontré des cas qui étaient au moins aussi lourds que le sien et qui n'ont pas fini comme ça. Hein? » Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, passe à l'acte et tout ça, ça?
C'est la fracture.
Le moment de fracture, c'est un peu difficile à expliquer. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est expliquer aux gens... c'est sûr que la pédophilie, c'est un crime affreux qui suscite l'indignation à juste titre. Mais moi, j'ai voulu examiner... On ne devient pas, à moins là, de bon, un petit pourcentage de psychopathes purs, là, on ne devient pas, on commet pas ce genre de crime sans soi-même avoir un historique très lourd au plan social la plupart du temps. Mm-hmm. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu décrire. J'ai voulu essayer d'expliquer aux gens, regardez, moi, j'excuse pas absolument pas les crimes de cet homme-là, mais j'essaie d'expliquer qu'est-ce qui a pu l'amener à commettre ça.
On a trois livres de vous. Histoire d'ogre est le plus récent. Il y a aussi donc La réparation, on en a brièvement parlé, qui tournait autour de l'intimidation à l'école, entre autres. Hein. Oui. On parlait d'une jeune femme, Sarah, qui avait été intimidée. Là aussi, c'était mené un petit peu comme une enquête. Et on a aussi Au pays des rêves brisés, où là, avec un camarade, voyons, c'est
Hugo
Meunier, vous levez le voile un peu, parce que c'est un sujet large, mais quand même sur... certains aspects de la folie. Vous avez rencontré des gens qui ont accepté de témoigner, des artistes, et vous vous êtes déplacé dans des lieux où on la traite, en tout cas. Je dis la folie, j'aime pas le mot, c'est parce que ça me vient pas.
La maladie mentale.
La maladie mentale, oui. Excusez-la. Donc, ça aussi, ça, c'est sorti ici en 2009, je pense, 2010, mais pas sur papier, encore une fois. Moi, je parle toujours
de
la
parution. Oui, oui, oui.
Et donc, Au pays des rêves brisés, ça aussi, c'était une enquête, mais là, c'était pas romancé. C'est vraiment...
Non, ça, c'est vraiment... C'est un essai. Donc, on est parti d'un constat qui était celui de la désinstitutionnalisation. Oui. Donc, on a voulu faire une espèce de portrait, un état des lieux de la situation de la maladie mentale au Québec. Donc, tant de par les gens qui en souffrent, donc on a effectivement 12 portraits de personnes, parfois c'est des quidam complètement ordinaires, ou des gens plus connus, comme Guy Lafleur qui a été touché via son fils et tout ça. Et on a aussi donc fait le tour des lieux de traitement de la maladie mentale qui se sont beaucoup diversifiés. Avant, il y avait un lieu, c'était l'hôpital. Maintenant, c'est extrêmement diversifié. Donc, on a voulu montrer à quel point c'était diversifié puis à quel point ces gens-là travaillent la plupart du temps dans l'ombre. Personne ne connaît la nature exacte de leur travail.
C'est ça.
Et pourtant, ils font un travail extrêmement important et essentiel auprès d'une clientèle là, qui n'est pas très populaire.
Et c'est rassurant?
Oui.
Oui, c'est rassurant.
Oui, oui. Okay. Moi, c'est sûr qu'il y a un problème de nos jours... disons, de prise en charge des gens qui ont un trouble de santé mentale. Ça, c'est certain. Mais une fois qu'on est dans ce système-là, une fois qu'on a réussi à entrer, c'est certain que la prise en charge est bonne. La difficulté, c'est d'y entrer.
C'est d'y entrer. Un refrain connu, hein, en ce moment. On est d'accord. Mesdames et messieurs, si vous venez juste de vous joindre à nous, c'est la journaliste Katia Gagnon qui était en notre compagnie ce midi pour l'émission Un livre découvert. Katia Gagnon, dont je rappelle que nous avons trois livres, Histoire d'ogre qui vient juste d'arriver au SQLA, La réparation et Au pays des rêves brisés dont nous venons tout juste de nous parler. Katia Gagnon, j'aurais fait durer ça comme toujours pendant une heure de plus. Mais, mais voilà, nous avons passé déjà une douzaine de minutes ensemble. Merci tellement d'être venue pour... nous voir ici, faire connaissance avec l'organisme et avec l'émission. Merci beaucoup.
Ben, un très grand merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Chapitre 3.
Généralement, à cette heure-là, je vous présente toujours un classique. Et puis, je vais vous faire une confidence, parce que vous savez que je vous dis tout. Le problème avec les classiques que j'ai rencontrés récemment, c'est que je suis allée en écouter quelques-uns. Et ça fait déjà quelques années qu'ils ont été enregistrés. Et je me suis aperçue que sur le plan technique, notamment, c'était pas toujours facile d'écoute. Alors, je me suis posé un cas de conscience. Et aujourd'hui, plutôt que de vous présenter un livre, j'ai décidé peut-être de vous présenter ce qui, à mon avis, est déjà une auteure classique, même si elle est encore en vie, et Dieu merci. C'est Marie-Claire Blais qui nous arrive avec « Au jardin des acacias ». Le résumé, pendant que le travesti Petite Cendre court le long de l'Atlantique, sur une île de Floride, l'enfant Angel est accueilli au Jardin des Acacias, qui est un refuge médicalisé qui est destiné aux malades du sida et dont s'occupe le docteur Dieudonné. Et durant ces heures intenses de vie, là-bas, chacun expérimente un moment essentiel de sa vie. Deux lycéennes fugueuses, par exemple, qui veulent assumer leur amour. On retrouve aussi un autre personnage qui est Fleur, très précoce compositeur, qui fait face à un prêtre dépravé qui semble incarner le mal. Et puis il y a aussi le poète Adrien qui écrit les derniers vers de sa longue vie. Le romancier Daniel qui tente de comprendre ses enfants qui s'émancipent. Et puis le tueur, Christophe, qui efface son passé en devenant comédien, aussi un peintre, hein, etc. Alors toutes sortes de personnages au Jardin des Acacias. Et ce n'est pas la tragédie qui attend ces personnages, mais bien une merveilleuse rédemption lors d'une croisière en mer que tous projettent. Tous les romans de cette immense fresque, parce qu'on parle bien d'une fresque dans le cas de Marie-Claire Blais, je vous le rappelle, ça a commencé avec Soif. Dans la foudre et la lumière, Augustino et le cœur de la destruction, Naissance de Rebecca à l'ère des tourments, mais au bal des prédateurs et le jeune homme sans avenir. Et enfin, celui-ci, la presse a dit qu'avec celui-ci, au Jardin des Acacias, Marie-Claire Blais atteint réellement un nouveau sommet. Il paraît que les journalistes avaient dit au moment où c'est sorti qu'elle se surpasse. Et puis, il y avait, je pense que c'était Marie-Christine Blais dans la presse qui avait dit « Nous n'avions pas envie de déranger l'écrivaine peu volubile dans ces terres de Key West. Une simple envie de dire merci et que nous serons là pour le 8e titre de celle qui, à plus de 70 ans, n'a absolument rien perdu de sa fougue. Inutile de vous dire que moi non plus, je n'irai pas déranger Madame Marie-Claire Blais dans sa retraite d'écrivaine, mais... ce n'est pas l'envie qui m'en manque. J'ai pour vous un très court extrait de ce livre qui ne comporte que 35 points pour ceux qui voudraient le savoir. Bonjour à ceux qui l'ont lu, ça n'a pas dû être facile. Tout petit extrait. Parfois, les femmes qui mendient dans les rues le jour viennent cacher ici leurs enfants, la nuit, des nourrissons, des bébés. Le jour, elles mendient avec leur progéniture dans leur giron. Tu les vois partout, dans les quartiers les plus condescendants, qui tendent la main vers le passant, le bébé, tout calé dans ses langes malpropres, ne sert qu'à la mendicité. Et moi que l'on accusait de pervertir l'enfance, c'est là où je vois la perversion, dans le cœur de cette femme misérable qui pervertit son enfant dans la mendicité. Mais est-ce sa faute ? Non, il faut que cette femme puisse nourrir les siens. C'est un extrait de ce livre « Au jardin des Acacias » de Marie-Claire Blais qui vient tout juste d'arriver. C'est tout chaud, tout chaud, tout chaud au SQLA. Vous pouvez donc dès maintenant vous le procurer. C'est Clotilde Sey qui vous tient compagnie avec ses invités à l'émission « À livre découvert » sur les ondes de Canal M.
À livre découvert avec Clotilde Sey et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Sans plus rien voir.
Oui, nous aussi, nous allons partir pour une espèce de beau voyage avec Pascal Bernard. Bonjour Pascal.
Bonjour Clotilde.
Pascal, donc, c'est la première visite ici à l'émission Un livre découvert, mais qui connaît bien l'organisme, puisque ça fait quoi, une dizaine d'années maintenant
que vous êtes bénévole? Ça fait une dizaine d'années que je suis bénévole, mais j'ai été aussi salarié ici, comme technicien de studio en 2003. Mais oui, ma chère, je connais bien Marjorie Théodore, je connais bien... Petit monde de vues et voix.
De vues et voix. Voilà. Et aujourd'hui, Pascal, je vous en remercie, vous êtes venu nous parler, nous partager une de vos lectures. Présentez-nous ce livre, au moins le titre, je vous laisse le dire.
Pour trois couronnes.
De François Garde.
De François Garde.
Garde, ça se prononce comme ça, c'est éternu, comme ça se dit.
Comme une garde, c'est ça.
La semaine dernière, parce que j'ai pris l'habitude d'appâter souvent avec un petit extrait. Et la semaine dernière, on ne réécoutera pas cet extrait-là, mais je vais vous dire lequel j'avais choisi, Pascal. J'avais choisi un extrait où un monsieur passe une espèce de visite médicale que je qualifierais de très intime, et on se demande bien pourquoi, et finalement, on lui fait pousser une porte, derrière laquelle porte, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a un lit, dans le lit, il y a une dame. Et il est là, il a passé cette espèce de visite médicale parce que, finalement, il va devoir honorer cette femme, comme on dit, en bon français.
Oui.
Et j'ai laissé mes auditeurs sur une patte. J'aurais dit que Pascal Bernard allait venir peut-être nous raconter. Alors finalement, est-ce qu'il l'honore et est-ce que c'est si important que ça dans ce livre?
Alors oui, il va la connaître au sens biblique du mot.
Oui.
Effectivement, il va effectivement l'honorer parce que... Mais ce n'est pas effectivement le thème du livre.
Non.
En fait, c'est le début de l'histoire. C'est l'entrée en matière. Effectivement, ce jeune homme, eh bien, c'est un marin et son bateau faisait relâche dans une petite île de l'Atlantique et quelqu'un le remarque et lui propose de l'argent. Et trois couronnes. Et dans cette île, ces trois couronnes, c'est une très forte somme. Et on lui explique que voilà, ce sera très simple, peut-être même assez agréable pour gagner ces trois couronnes. Voilà. Et il...
Parce que si ce n'est pas l'histoire principale, c'est quand même ce qui donne le titre au livre.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, trois couronnes. Parce que ces trois couronnes, on va les retrouver de temps en temps. Et à la fin, elles ont, je ne vais pas dire la fin du livre, mais elles ont effectivement une
signification.
Une signification,
oui. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce jeune-là? Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à ce
ce jeune-là, il entre en matière parce qu'en fait, à l'époque où on raconte son histoire, et ce jeune homme est mort. Et c'est sa femme. Alors, il a eu une vie quand même à la fin de sa vie. Il avait une vie tout à fait respectable et puis même plutôt dans l'aisance. Et il décède un jour, parce que c'est notre fin à tous. Et quelqu'un... Quelqu'un se propose pour s'occuper des papiers, de tout le côté administratif des successions, ce qui était toujours épouvantable et très très difficile. Et alors, il va trouver dans les papiers, les archives de ce monsieur qui vient de décéder, un manuscrit. Enfin, un manuscrit très court, c'est 3 ou 4 pages. Et il raconte justement cette histoire où... Il voit un médecin et on lui demande de faire l'amour avec une femme, en fait. Et alors, évidemment, celui qui s'occupe des papiers se demande, est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Est-ce que c'est un manuscrit, quelques feuilles qu'il a récupérées? Et alors, il est très gêné, parce qu'il se dit, si c'est vrai, son épouse, comment elle va réagir? Bref. Et puis, bon, il choisit d'en parler à l'épouse. Alors, l'épouse prend ça assez bien. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont de la haute société. Alors, ils masquent un petit peu leurs sentiments et ils ne laissent rien paraître. Mais elle le charge quand même. Elle lui dit, écoutez, vous allez chercher si c'est vrai. Et s'il y a eu un enfant à la suite de cette chose. Et alors, il dit, mais il la prévient, ça ne va pas être gratuit. Enfin, bref, tout s'arrange. Et il part donc dans cette île pour aller à la recherche. Voir l'histoire. Enfin, d'abord, il ne sait pas...
Pour confirmer ou non.
Alors,
ce qu'il a trouvé dans ce
document. D'abord, je vais un peu trop vite, parce qu'en fait, on ne sait pas où le bateau a fait relâche. Il retrouve le nom du bateau. Mais il ne sait pas exactement. Il arrive de fil en aiguille à retrouver le nom du bateau, donc les carnets de bord du bateau, et il sait où, à peu près, ça s'est passé dans l'île. Dans quelle île? Et l'île s'appelle Bourtapage. Alors, Bourtapage, c'est une île... qui n'existe pas. C'est donc ça convient à l'histoire.
On ne sait même pas sur quel continent.
Non, c'est ça. Ce serait, elle se situerait dans le Pacifique, dans l'Atlantique Sud.
Ok.
Après l'histoire. Et puis, Bourtapage serait aussi une ancienne colonie française. Voilà. Au jour d'aujourd'hui. Alors, il va là-bas à Bourtapage. Et c'est là où ce qui m'a plu, c'est que en fait, il y a plusieurs histoires, parce que c'est un peu, comme on peut s'en douter, c'est un peu un voyage initiatique pour celui qui entreprend cette histoire. Il va fouiller dans le passé. Et il s'aperçoit que oui, il y a eu un enfant. Il y a eu un enfant. Cette femme a eu un enfant. Elle était mariée, la femme que ce jeune homme a honorée, justement. Elle était mariée et son mari était stérile. Ah. Et c'était le grand drame. Et alors, ils ont fait un petit peu, c'est amusant, parce que ça m'a fait penser à un passage de la Bible où, vous savez, quand une femme était stérile, on demandait aux frères, aux servantes, etc. Et ça fait un peu penser à ça. comme l'insémination artificielle n'existait pas et que cette époque-là, dans les années 50, ça n'était pas du tout maîtrisé, même pas conçu. Bref, et alors celui qui s'intéresse à l'histoire, lui aussi, il a son histoire. Il a son histoire, il est Libanais. Il est Libanais et au Liban, il y a des problèmes et il y a son père, il ne s'entend pas bien, enfin bref. Et puis au travers de cette histoire, il voit aussi les problèmes qu'il y a entre les parents,
oui,
etc. Ce qui est intéressant, une partie du livre, c'est que celui qui naît de cette union devient un personnage politique. Et il défend, ironie du sort, il défend les insulaires, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans l'île, d'habitants de l'île, alors qu'il ne sait pas que lui...
Il n'est pas né, en quelque sorte.
Il n'est pas né d'un personnage de l'île, mais de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Alors, c'est un petit peu l'ironie que l'auteur donne à ça. C'est passionnant.
Est-ce qu'on s'y retrouve? Parce que là, on parle quand même de plusieurs niveaux, plusieurs personnages. C'est facile, d'accord.
Oui, non, okay. Ça se lit très bien. Ça se lit très bien. Mm-hmm. Je parle de passages qui m'ont particulièrement intéressé. C'est pour ça. Mais ça se lit très, très bien. Le style est clair.
Oui, en auriez-vous un petit extrait?
Oui, alors je vais lire un extrait où le jeune homme qui s'occupe de cette succession retrouve l'un des médecins qui a examiné le personnage. Mm-hmm. Et il se fait passer lui-même pour un mari stérile. Alors, je vais vous lire un petit peu ça. Il y a pas très long, deux pages. Alors... Je ne pouvais en rester là. Il croisa les mains et attendit. Devais-je lui demander le nom de ses confrères auxquels il aurait pu m'adresser? La probabilité de les retrouver et d'obtenir des confidences était infime. Très bien, je ne suis pas de Dijon, mais de Metz ou de Valence. Mon médecin de famille m'envoie vers vous. Je suis venu à Dijon, où je ne connais personne, mettre l'avenir de mon couple entre vos mains, enfin entre les mains d'un gynécologue des années 50. Il esquissa un bref sourire et croisa les jambes. « Dans ce cadre-là, j'ai sans doute quelque chose à vous dire. J'ai fait quelques allusions pour vous prévenir que la solution pouvait être regardée comme coûteuse ou choquante. Allez-y, docteur, je suis prêt à tout entendre. Nous savons que la stérilité vient du mari, non de la femme. Nous savons à peu près, par rapport au calendrier des règles, à quelle période la femme a le plus de chances d'être féconde. » Disons, pour faire simple, le deuxième tiers de la période intermenstruelle. Il y a une solution envisageable, si vous êtes prêt à faire un sacrifice considérable pour un mari. Eh bien, j'ai déjà reçu des personnes dans votre situation. Je peux essayer de trouver un homme de la même taille, brun, comme vous. Je vérifierai qu'il est en parfaite santé. Certains couples, déjà, ont pu y avoir recours. Ce garçon ne passera avec votre femme que le temps strictement nécessaire. Il ne vient que pour rendre un service infiniment singulier, non pour autre chose, et il le sait. Votre femme pourra rester masquée, voilée, couverte autant que possible. Il faut ensuite pouvoir oublier. Au premier, ou en tout cas au second essai, la grossesse est presque assurée. 9 mois plus tard, qui se souviendra de cet opportun voyage à Dijon? Voilà la solution qui peut être proposée. Pas par moi, bien sûr. Personne ne vous dira qu'il a facilité ce genre de rencontre. Et les couples qui y ont recours, il y a tellement longtemps, ont le droit... que rien jamais ne soit su. Voilà. Alors voilà, ça explique le passage qui a été lu un peu.
Qui a quand même drôlement son importance. Quoi,
oui, évidemment.
Je vous rappelle que nous parlons du livre de François Garde pour Trois couronnes, dont j'ai vu que nous avions déjà un autre livre du même François Garde qui s'appelle « Ce qu'il advint du sauvage blanc ». Ça a été enregistré également chez Vues et Voix en 2012, donc c'est relativement récent. Autrement dit, si l'écriture de François Garde vous intéresse, je pense que ça vaut le coup d'aller voir aussi « Ce qu'il advint du sauvage blanc ». Et là, je rappelle que le titre du livre dont vous êtes venu nous parler, Pascal Bernard, c'est « Pour trois couronnes ». Il y a un journaliste qui a dit... En fait, ce n'est pas un journaliste, c'est un lecteur. J'ai trouvé ça sur un site internet qui dit « Oh, j'ai fait un bien beau voyage ». Et il y avait un truc... C'est dans l'Express, le 6 juin 2013. Un journaliste avait écrit cette critique. « Si vous demandez à un roman d'être un tapis volant, de vous emmener vers de fabuleux horizons, de vous surprendre jusqu'à la dernière page... « Précipitez-vous sur celui-ci ». Vous êtes d'accord, Pascal Bernard ?
Oui, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, évidemment, le destin de l'enfant qui est né est intéressant parce qu'il aura des problèmes. Il va provoquer toute une révolution à Bourg-Tapage, dans cette île, à cause de ses positions politiques, etc. Et alors, je ne veux pas en dire plus.
Et d'ailleurs, je ne vous le demande pas.
Non,
mais précipitez-vous.
C'est très intéressant.
Merci, Pascal.
Absolument.
Vous allez revenir ?
Oui, bien sûr.
Hein, parce que j'ai toujours besoin de bénévoles qui viennent nous parler de bouquins. Et parfois, il faut que je leur torde un bras, mais au moins, avec vous, ça a quand même été relativement facile.
C'est ça. Puis moi, je reconnais qu'on me fait lire de très bons livres.
Eh bien, alors, tant mieux. Merci beaucoup. C'était Pascal Bernard, bénévole ici chez Vues et Voix.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Ça, c'est un petit peu la bande-annonce, comme je l'avais fait d'ailleurs la semaine dernière avec le livre de François Garde dont nous venons de parler avec Pascal Bernard. La semaine prochaine, je vais recevoir Sophie Bienvenue, si tout va bien, l'auteur. Et oui, celle à qui on doit, et au pire, on se mariera, qui est sortie il y a maintenant peut-être une petite année, qui est maintenant disponible au SQLA. Nous sommes dans le quartier Centre-Sud. Tiens, ça, au niveau de l'ambiance, c'est très, très proche de ce que nous racontait et de ce que nous raconte Katia Gagnon dans Histoire d'Ogre, dont nous parlions un petit peu plus tôt. On est donc entre, à peu près, sur la Sainte-Catherine, avec Mel, avec Joe, avec des putes travesties. Nous sommes au milieu d'un parc jonché de seringues. Et là, on fait connaissance avec Aïcha. Cette jeune personne qui traîne son enfance cassée par son beau-père, elle rencontre Baz, dont elle devient amoureuse, jusqu'à ce qu'une chose très grave leur arrive. Et pour sauver sa peau, pour protéger Baz, eh bien Aïcha sera forcée de s'expliquer à une travailleuse sociale. Elle va revoir toute son histoire, elle multiplie les versions des faits dans un monde si mal foutu. Qui dit vrai et qui peut dire où se situe la réalité ? C'est une confrontation déchirante et drôle, où l'émotion court, la langue est à fleur de peau, et au pire, on se mariera. C'est à la croisée du romanesque, du théâtre de rue et de la déposition, et du théâtre tout court d'ailleurs, et ça a donné lieu à une pièce de théâtre. Et au pire, on se mariera. C'était en octobre dernier au théâtre Prospero, et c'était Kim Depaty qui interprétait le rôle de Aïcha. Il paraît que c'était vraiment extraordinaire que d'entendre cette fille nous proposer ce récit dont Marie Labrecque nous disait dans Le Devoir que c'est un récit habile à laisser entrevoir ce que la narratrice elle-même ne perçoit pas, aveuglée par la force de sa colère et de sa souffrance. Elle, qu'une soif d'amour et d'absolu poussera aux extrêmes. Elle va donc venir nous parler de tout ça. Sophie, bienvenue. Je vous propose un extrait de ce livre et au pire, on se mariera.
Ouais, Aïcha, c'est vraiment mon prénom. À cause de la chanson, tu sais? Non, tu sais pas. Personne la connaît, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai plutôt la tête à m'appeler Rosalie ou Camille, mais je m'appelle Aïcha, Aïcha Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est le nom de ma mère, et Aïcha, c'est parce que mon père est algérien. OK, pas mon père-père, mais le gars avec qui elle était quand elle est tombée enceinte de moi. Il est resté un bout quand même, jusqu'à ce qu'il arrête d'espérer que mes cheveux deviennent bruns et mes yeux aussi, et ma peau aussi. Il était nice, puis il était beau. J'ai une photo de lui dans mon sac. Si tu veux la voir, je pourrais te la montrer à un moment donné. Tantôt, genre,
quand ils m'auront rendu mon sac. Ils vont me rendre mon sac, hein? Parce que j'ai des affaires importantes dedans. Ils vont fouiller dedans?
Whatever.
Quand ma mère partait, je sais pas où, travailler, qu'elle disait, on restait tous les deux, lui et moi. Dans ce temps-là, j'allais pas à l'école, je m'habillais même pas, et on regardait des films toute la journée en bouffant de la pizza puis des frites. Lui, il aimait rien que les super vieux films, genre Scarface et tout. Moi, je préférais les dessins animés, mais ça le faisait chier, les dessins animés, alors j'ai fini par m'habituer à ces trucs. Aïcha.
Eh bien, c'est Sophie, bienvenue, qui va répondre à mes questions la semaine prochaine, si tout va bien. Quand j'annonce comme ça à quelqu'un, je me croise toujours les doigts, je me dis pourvu qu'il n'arrive rien. Tempête de neige, grippe ou autre, allez savoir. Sophie, bienvenue, à qui l'on doit ce texte? Et au pire, on se mariera. Récemment, depuis quoi, quelques semaines, disponible au SQLA.
Des nouvelles et des livres.
Il y a quelques semaines, alors que nous étions tous complètement sidérés par les terribles événements qui se sont déroulés en France, en tout cas les premiers événements du genre, entre autres dans les locaux de Charlie Hebdo, il y a un auteur dont on s'est mis à parler beaucoup, c'est Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, puisque le même jour, donc c'était le 7 janvier dernier, il sortait ce livre dont on parle énormément, qui s'appelle « Soumission », dont je ne vous parlerai pas énormément aujourd'hui, parce qu'évidemment, il n'a pas encore été enregistré par Vues et Voix. Il va l'être, mais il ne sortira que dans quelques mois. Ce livre « Soumission », où il s'imagine qu'à un moment donné, en France, c'est l'islam qui va régner en roi et maître. Il y a par contre, alors je suis tout de suite allée voir, je me suis dit, oh mais tiens, en fait, de Michel Houellebecq, qu'est-ce que nous avons au SQLA? Eh bien, nous avons entre autres Extension du domaine de la lutte, qui était son tout premier. Nous avons aussi Les particules élémentaires, ça c'est vraiment le titre qui lui a donné toute sa renommée, et ensuite ça s'est poursuivi avec La carte et le territoire, grâce auquel il a reçu le prix Goncourt en 2010, après avoir été plusieurs fois pressenti pour ce prix. Il y a aussi La possibilité du Nil, et nous avons aussi Plateforme. Donc tout ça de Michel Houellebecq. Pour en savoir un petit peu plus sur Houellebecq, il est né Michel Thomas, il est né à La Réunion le 26 février 1956, ou d'après lui en 1958. Alors qui croire qui, je ne sais pas, mais enfin lui il dit qu'il est né en 58. Il est donc français, il est poète, il est essayiste, il est romancier, il est réalisateur, et il est, depuis la fin de l'année des années 90, l'un des auteurs contemporains, mais oui, de langue française, les plus connus et traduits dans le monde. Et il a également fait quelques apparitions remarquées en tant qu'acteur, Monsieur Houellebecq. Alors, il s'est révélé, je vous le disais, par les romans Extension du domaine de la lutte que nous avons, que vous pouvez lire, Les particules élémentaires qu'il fait connaître, je vous le disais, le dernier roman et son livre suivant, Plateforme, qui sont considérés comme des précurseurs dans la littérature française, notamment pour leur description au scalpel, mais non sans humour, de la misère affective et sexuelle de l'homme occidental dans les années 90 et 2000. Un homme qui s'est dit complètement ravagé, ému, quand son livre Soumission, dont il faisait la promotion au moment des événements à Charlie Hebdo, il a dit « Oui, oui, je suis Charlie », dans un entretien qui avait été réalisé au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo et diffusé quelques jours plus tard dans le grand journal de Canal+. L'écrivain qui avait décidé de quitter Paris, profondément affecté par la mort de son ami, notamment l'économiste de gauche Bernard Maris, qui a été tué ce 7 janvier avec toutes ces autres personnes, dont ces caricaturistes bien connus, dans les bureaux de Charlie Hebdo. « Oui, je suis Charlie, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un que je connaisse fait assassiner », a répondu Michel Houellebecq, la voix étranglée par l'émotion. Et Bernard Maris admirait beaucoup Houellebecq, y voyant un analyste lucide du libéralisme, au point de lui avoir consacré d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Houellebecq économiste. On devait participer ensemble à un débat fin mars, car il allait publier un nouveau livre, et au moment des événements, Houellebecq a dit « J'arrête la promotion parce que je n'ai pas envie de parler de mon livre en ce moment, je ne suis pas très en forme ». Alors je vous rappelle les livres que nous avons, « Extension du domaine de la lutte »,« Les particules élémentaires »,« La carte et le territoire »,« La possibilité du Nil » et « Plateforme », tout ça, signé Michel Houellebecq.
Quelques nouveautés en rafale.
Pour commencer, l'album multicolore, c'est signé de Louise Dupré, et permettez que je commence par un extrait. Elle dépose sur la table une boîte de chocolat, Laura Secor, remplie de photos. Elle veut me montrer Émilie dans sa longue robe noire, une robe de religieuse que sa grand-mère avait revêtue dès l'âge de 30 ans. Elle rit, l'âge où les femmes devenaient vieilles. Je calcule, Émilie est morte à 93 ans, elle s'est sentie vieille pendant plus de 60 ans, j'en frémis. Soudain, comme si elle venait d'avoir une illumination, elle se lève, se dirige à petits pas vers sa chambre. Elle revient aussitôt avec 3 albums, tout neufs. J'ai décidé de vous remettre à chacun les photos de votre enfance. Le moment est venu. Le cœur me serre. Je comprends bien ce qu'elle veut dire. Elle me tend un album à la couverture multicolore, tout en dégradé, des teintes claires ou sombres, joyeuses ou sérieuses, audacieuses ou discrètes. Comme elle, ma mère, c'est pour toi, dit-elle simplement. Quelques mois après la mort de sa mère, Louise Dupré entreprend un récit de deuil pour tenter de saisir qui était la femme qu'elle a appelée maman. C'est un livre qui se lit passionnément. Dans Châtelaine, on écrivait ceci le 2 juillet 2014. Avec émotion, ce sont nos propres souvenirs que nous retrouvons dans ce livre consolant. Dans la presse du 28 avril 2014, dans ce récit autobiographique, Louise Dupré tente de cerner par petites touches, comme une aquarelle, celle qui fut sa mère. La mémoire n'est pas en noir et blanc dans cet album multicolore où l'écriture se déploie dans la douleur du deuil et l'infinie tendresse du souvenir. Une très courte citation encore, celle-ci. « Je ne ferai peut-être pas le deuil de ma mère, mais je m'habitue du moins à faire celui de l'écriture parfaite qui pourrait me redonner la réalité. » Je vous rappelle le titre, l'album multicolore de Louise Dupré. Confession post-référendaire, les acteurs politiques de 1995 et le scénario d'un oui, c'est signé Chantal Hébert et Jean Lapierre. Cela dit, ça a été traduit de l'anglais par Joseph-Aimé Valcourt. La question est simple. Que se serait-il passé au lendemain d'un oui majoritaire, le 30 octobre 1995? Comment auraient réagi les principaux acteurs politiques de l'affrontement référendaire? Eh bien, pour le savoir, la chroniqueuse Chantal Hébert et le commentateur Jean Lapierre ont interviewé 18 des principaux protagonistes de ce grand événement de notre histoire récente. Ils ont rencontré ensemble les politiciens québécois et chez la COPS. Hébert seul a mené les entrevues avec les acteurs de l'extérieur du Québec et a rédigé l'ouvrage en anglais. On nous dit que sans être une œuvre remarquable sur le plan littéraire, ses confessions post-référendaires sont néanmoins riches en révélations qui ne laissent pas de surprendre. Confessions post-référendaires, les acteurs politiques de 1995 et le scénario d'un oui, signé Chantal Hébert et Jean Lapierre. Joyland de Stephen King. Bon, les clowns vous ont toujours fait peur, l'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse, alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. L'histoire, rapidement, après une rupture sentimentale, David Jones, il a 21 ans, débarque l'été 73 à Joyland, qui est un petit parc d'attractions sur le littoral de la Caroline du Nord. Il est embauché avec d'autres étudiants pour compléter l'équipe de forains à la fois étrange et joyeuse. Sa rencontre avec un petit garçon doué de voyance, atteint d'une maladie grave et surtout de sa mère, va changer la vie de Devin. Obsédé par le mystère du train fantôme, soi-disant hanté par le spectre d'une femme égorgée 4 ans auparavant, le jeune homme se lance dans une enquête. On écrivait dans la presse le 16 juin 2014 « Avec ce court et grand cru, le maître de l'horreur plonge dans une veine qu'il a explorée trop rarement. » Un filon où la terreur, le gore, le fantastique sont à peu près absents. Apprenez à contrôler vos dépenses, de Caroline Lalande. C'est un petit guide pour ceux qui n'aiment pas se faire un budget, pour reprendre le contrôle de vos finances personnelles sans budget. Si vous gagnez un bon salaire, mais que vous vous questionnez à savoir où va votre argent, vous êtes peut-être de ceux qui dépensent un petit peu plus que ce que vous gagnez, vous rapprochant ainsi petit à petit d'un gouffre financier. Comment arrivez-vous à dépenser autant en n'y voyant que du feu? Et comment freiner vos dépenses dans cette société de consommation? Voici quelques questions. Auquel notre amie Caroline Lalande, je dis mon amie, je ne la connais pas du tout, auquel l'auteur Caroline Lalande essaie de répondre dans « Apprenez à contrôler vos dépenses ». Et puis juste quelques mots pour vous parler de Joe Jack, qui est toujours d'ailleurs parce qu'il vit encore. Il s'agit d'un musicien non-voyant qui vit à Montréal-Nord. Je vais essayer de l'avoir à cette émission-là. Et je vous parle d'un livre qui évoque sa vie. C'est un livre qui est signé Caroline Monpetit du Devoir. Ça s'appelle « L'aveugle aux mille destins de Joe Jack ». Savoir comment ce type-là a fait carrière en musique malgré sa cécité, c'est très, très, c'est très chouette comme bouquin. Essayons de voir si Joe Jack va venir à l'émission. C'était Clotilde Seille pour l'émission « Un livre découvert » à Canal M. Merci Jean-Sébastien Laliberté. Bonne lecture à vous toutes et vous tous.